affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de passer un moment avec Maurizio Serra. Vous êtes nombreux à le connaître déjà, car nous l'avions reçu il y a quelques mois pour sa biographie consacrée à Gabriele D'Annunzio, après celle qu'il avait également consacrée à Malaparte, à Italo Svevo ou encore à Drie La Rochelle, Aragon et Malraux, dénommés les frères séparés. Mais c'est un homme différent que nous recevons aujourd'hui. Depuis notre dernière rencontre, Maurizio Serra a en effet été élu à l'Académie française. Enfin, le 20 octobre dernier, il a publié son premier roman, peut-être inspiré par sa carrière diplomatique. Maurizio Serra est en effet également ambassadeur italien, puisque ce roman, disais-je, publié chez Grasset, est titré « Amour diplomatique ». Monsieur, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Être élu à l'Académie française et puis publier un premier roman, ce n'est pas rien, et ce n'est pas rien pour un amoureux de la littérature. Pouvez-vous nous dire comment vous avez vécu ces deux événements ?
Oui, il est très difficile de rester le même homme, comme vous le disiez tout à l'heure, devant des honneurs semblables. C'est immense, c'est bien au-delà de mes possibilités. C'est également un signe qui va, me semble-t-il, dans le sens de cet universalisme qui est propre de la culture française, de rassembler des auteurs qui viennent d'autres pays et qui ont dans la langue et dans la culture française un point de repère essentiel de leur parcours.
Par ailleurs, pouvez-vous nous éclairer un petit peu sur votre rapport à la langue française ? Car, compris, vous êtes italien, mais vous écrivez un grand nombre de vos livres en français.
Oui, très souvent dans les deux versions d'ailleurs. Évidemment, le passage de l'essai à l'œuvre de fiction est plus complexe parce que l'essai, la biographie peuvent avoir des plages d'écriture plus ou moins amples, mais elles restent à l'intérieur quand même d'un tracé, d'un parcours que vous devez suivre, qu'il soit chronologique, thématique ou autre. Dès que vous êtes dans la création littéraire, le terme est très important, là s'ouvre une dimension où le langage devient non seulement une notion intellectuelle, mais également charnelle. Et c'est beaucoup plus intense d'une certaine mesure.
Alors précisément, au-delà de l'écriture, qu'avez-vous ressenti à la perspective de publier ce roman, Amour diplomatique, et quelle est la genèse de celui-ci ? Comment est-il né en vous ?
Bien, disons que c'est le premier roman publié, aussi bien en France maintenant qu'en Italie dans quelques mois, donc dans la version italienne de l'auteur, qui est légèrement différente d'ailleurs, mais plutôt sur le du point de vue stylistique qu'autre chose. Le fait d'affronter la littérature du point de vue du roman est quelque chose de nouveau et d'ancien chez moi, dans la mesure où j'ai toujours cultiver cette dimension, mais je n'ai jamais rien publié d'achevé ou d'abouti. Et donc, c'est le premier roman, je tiens à le considérer comme tel, quoique les trois récits puissent paraître indépendants l'un de l'autre, mais je pense qu'il y a des passerelles, des chemins de traverse qui en font vraiment une œuvre unique.
Oui, c'est un livre qui est construit à partir de correspondances, de réminiscences. Voilà. Vous disiez que dans une biographie, il y avait une chronologie. Ici, elle est complexe, car c'est un livre qui est fait d'aller-retour.
Oui, bien sûr.
La géographie, même la temporalité se brouille, à tel point qu'on finit par se demander même si le temps n'est pas comme une feuille de papier qu'on pourrait plier, redéplier, à tel point que les destins se croiseraient au gré de ces pliages.
Enfin, j'ai essayé de prouver qu'il y a une part qui est constante et qui est celle de l'errance de la nature humaine, que ce soit une errance amoureuse, idéologique, historique. Et à côté de cela, quand même, j'ai essayé de donner un cadre de référence assez précis à chacun des récits pour que le lecteur considère que quand même ce sont des histoires qui ont évolué dans un temps, mais dans un temps qui existe.
Elles sont parallèles, mais elles se croisent. Alors, il y a trois histoires, c'est une forme de triptyque en quelque sorte.
Oui, tout à fait, oui, tout à fait.
Comment vous est venue l'idée de ce parti pris ?
Eh bien, ça s'est fait d'une façon qu'on pourrait définir inconsciente, c'est-à-dire que les trois récits ont été écrits plus ou moins à la même époque, indépendamment l'un de l'autre, mais en les écrivant, des clins d'œil sont venus automatiquement qui m'ont fait penser qu'on pouvait vraiment passer de l'un à l'autre à travers des chemins de traverse, à travers des références, à travers des rappels. Et voilà, c'est ce qui a donné, à mon avis, l'unité et qui exige que la lecture parte du premier récit pour arriver au troisième.
Alors partons du premier, d'un pays imaginaire. Il y a un aspect assez onirique quand même dans cette première partie.
Oui, onirique, mais en même temps, la destruction d'un pays imaginaire par des mauvais calculs de la communauté internationale et la folie ethnique à l'intérieur de ce pays est hélas une réalité très présente à notre époque. Alors qu'il s'agisse de mon Michoumistan ou d'un autre pays ou d'autres situations qui peuvent se présenter dans d'autres pays, il n'y a pas une correspondance immédiate, c'est un malheur de notre époque.
Oui, ça pourrait être aussi bien le Haut-Karabakh que les Balkans, que tout ce que le lecteur voudra y mettre. C'est l'avantage des romans, c'est que le lecteur est partie prenante.
Bien sûr.
Alors dans cette première partie, comme dans les autres, le narrateur est presque systématiquement un diplomate, mais certains personnages le sont. Quelle est la part de votre expérience de diplomate dans la rédaction de l'ouvrage?
Incontestablement, 40 ans de carrière sont passés un peu dans ces récits. Mais j'ai souhaité quand même qu'à chaque fois, peut-être moins dans le premier, un peu plus dans les deux autres, le diplomate soit un peu... le diplomate de la narration soit un peu en retrait de la narration elle-même. C'est-à-dire que cette fonction qui est de la diplomatie, qui est d'être dans des parcours importants, mais toujours dans une dimension qui n'est pas immédiatement perceptible et qui n'est pas immédiatement publique, se retrouve un peu dans la littérature.
Il est vrai que, même si nous l'avons dit, c'est un triptyque, c'est aussi un livre cursif, et au départ, l'aspect diplomatique, géopolitique, semble avoir une place plus prégnante, qui s'amoindrit au fil du récit pour se recentrer davantage et davantage et davantage sur les histoires d'amour ou de relations entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les hommes, tout simplement. Est-ce que je me trompe ou
y a-t-il Non, pas du tout.
C'est comme si simplement le focus allait vers l'humain.
Oui, oui. En tout cas, il y a des comparaisons, mais en même temps, il y a des différences. Le premier récit est le récit de deux catastrophes vécues par le personnage, qui sont une catastrophe amoureuse, une catastrophe existentielle, professionnelle. La disparition de son pays. D'ailleurs, il y a une phrase que j'aime bien quand il dit « Je suis né Michoumistanais et je mourrai Michoumistanais », même si le pays n'existe plus. Et en même temps, la destruction avec une résurgence artificielle finale de son grand amour existentiel. Donc voilà, c'est le parcours. Les deux autres se placent un peu différemment parce que je n'ai pas voulu raconter trois fois la même histoire, sinon un récit aurait suffi.
Oui, est-ce que dans cette atmosphère onirique dans laquelle on baigne au départ, mais qui devient également moins prégnante par la suite, on a néanmoins quand même l'impression que les sentiments ou la volonté des personnages comptent presque autant que la réalité. C'est-à-dire que cette femme apparaît et disparaît, tant qu'il y pense, elle existe, et son pays, c'est la même chose.
Mais oui, bien sûr, parce qu'il y a toujours une dimension, je disais tout à l'heure, j'utilisais le terme charnel, qui revient dans nos aventures existentielles, dans nos parcours. Donc il est certain que l'onirisme ou simplement la fantaisie, parfois un peu gothique même, qui s'empare de des personnages de ces trois récits, est liée à la fois à la réalité et à une interprétation de la réalité dont le rêve peut-être ouvrir une dimension cachée.
J'ai envie de vous citer Drieu, parce que j'ai pensé à cette citation en lisant le livre. Ouais, oui, mais je vais maintenant citer ce qu'il disait. Il proclamait sa volonté de rêver sa vie, mais aussi de vivre ses rêves. On a l'impression que beaucoup de vos personnages sont tenaillés par la même ambition.
Oui, enfin, l'ambition qui est une ambition perdante, parce qu'au fond, ce sont trois histoires de faillite, disons-le, sans pour cela ôter au lecteur l'optimisme. Il y a quand même, j'espère, une part d'humour également qui intervient. Peut-être cet humour, vous savez, c'est une réminiscence professionnelle, là où je risquais d'être trop pris d'une façon émotionnelle par le récit, et donc voilà, c'est une forme de protection. Mais bon, il est certain que, alors qu'il voit dans la réalité un facteur généralement d'échec de leur existence, le repli dans le rêve, je pense au personnage japonais du deuxième récit, est quelque chose qui les fait aller vers une dimension même spirituelle plus profonde de ce que la vie seule leur aurait réservé.
Alors dans la même histoire centrale, il y a un autre personnage qui se réfugie dans les rêves et la poésie, c'est celui du grand poète.
Oui.
Alors, le grand poète, nous avons le sentiment, nous lecteurs, d'y reconnaître à la fois un peu d'Annunzio, mais aussi, je ne sais pas, un peu Ezra Pound.
Oui, oui, oui.
D'autres encore.
Oui, Marinetti.
Marinetti.
D'ailleurs, j'utilise un petit instrument cousu de fil blanc des littérateurs quand ils disent, quand ils font parler à un personnage, lui disant oui, Marinetti disait ça, ou Ezra Pound disait ça, pour qu'on ne pense pas que c'est lui. Non, comme le
Oui, pour pas qu'on tombe dans la tentation d'y voir un roman à clé.
Voilà, ce n'est pas
un roman à clé.
Non, non. Mais je pense qu'il y a ce personnage du grand poète qui circule dans l'Europe des années des années centrales du deuxième récit, c'est-à-dire les années de la Seconde Guerre mondiale, qui est cette figure un peu iconoclaste de l'intellectuel qui veut mélanger son goût de la totalité poétique à la réalité affreuse de l'histoire et qui pense naviguer dans une autre dimension. Donc il y a une part de caricature, mais également je pense que dans les cas que vous avez cités et dans d'autres, Hamsun, on peut retrouver cette sorte de marge visionnaire en disant oui, voilà, l'histoire va vers la guerre civile européenne, vers l'affrontement, parce que finalement, ils n'ont pas suivi les principes de beauté auxquels j'inspirais mon œuvre. Donc, j'ai voulu retracer un peu de cela.
C'est un sujet qui vous a toujours passionné, car je crois que vous avez écrit également
un
ouvrage sur les poètes guerriers.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est un peu un clin d'œil que je fais à ces sujets qui m'ont passionné et me passionnent toujours.
On a l'impression que ces personnages, qu'ils soient diplomates ou non, et à l'étranger ou non, sont en exil, finalement.
Ah oui, non, bien sûr. Bien sûr. C'est la dimension. C'eût été un titre alternatif, exil diplomatique, mais bon, on pouvait penser que c'était un essai ou que ça allait dans une dimension autre. Et puis, amour, c'est quelque chose qui est présent dans la dimension de l'exil. Donc, j'ai bien voulu conserver ce titre avec mes éditeurs.
Oui, et puis l'amour est très présent dans le livre aussi, car il s'agit essentiellement quand même d'histoires d'amour.
Eh oui, bien sûr, qui sur une toile de fond historique qui évolue assez dramatiquement dans les trois cas d'ailleurs. Et mais effectivement, il y a une centralité du sentiment et l'idée que le sentiment, le rêve, parce que c'est un sentiment très souvent vécu ou en partie vécu, puisse ouvrir une nappe de bonheur que l'histoire elle-même ne permet pas.
Vous n'utilisez pas de grand, ce, ce, ce grand mot, mais on a le sentiment qu'ils sont en quête de rédemption aussi.
Oui, ben il y a une, c'est un dans cette composante de l'amour, la spiritualité joue un rôle fort. Oui, je pense.
Et comme vous le dites, c'est un échec. L'amour se révèle souvent destructeur.
Ben oui, parce que dans les trois cas, que ce soit l'histoire qui éloigne et différencie les possibilités des retrouvailles, et que ce soit une dimension un peu diabolique qui va bien d'ailleurs avec le spirituel, qui vit dans ces personnages, eh bien voilà le résultat. Mais remettons notre lecture. Triste, c'est notre lecteur quand même dans la bonne humeur en pensant que ce n'est pas si triste que ça.
Ah non, ce n'est pas triste. Il y a beaucoup de pages extrêmement drôles, quelques jugements aussi livrés ici ou là sur notre époque, car le livre se termine plutôt à notre époque, mais avec beaucoup de drôlerie, mais une drôlerie teintée de mélancolie. Quand
ah
même.
Oui, bien sûr, mais bien sûr.
Le livre entier est baigné de mélancolie, mm-hmm. et le regard porté sur le monde, les êtres et les choses est celui de la mélancolie. Vous êtes quelqu'un de mélancolique ?
Non, pas particulièrement, mais c'est peut-être un besoin que j'ai eu de présenter quelque chose qui m'appartient moins. Vous savez, le dédoublement entre la vie réelle et la vie littéraire. On a écrit des bibliothèques à ce sujet.
Il y a... J'en reviens à cette phrase de Drieu, on a quand même le sentiment qu'il y a une volonté aussi de s'extraire de la médiocrité. La médiocrité, de la vulgarité, je pense notamment aux pages sur le tourisme et la veulerie.
Oui, enfin...
Qu'elle mène au massacre ou pas, je veux dire.
Oui, je suis partagé à ce niveau parce que je n'aime pas, je ne crois pas que mes personnages aiment beaucoup l'idée que ce sont des êtres nobles dans une époque qui baigne dans la vulgarité. C'est une sorte d'élitisme facile qui ne leur appartient pas, si je puis parler pour eux, et si j'ose parler pour moi, ne m'appartient pas. Je pense tout simplement qu'il y a, dans les trois dimensions, si vous voulez, qui se superposent, la dimension sentimentale, la dimension idéologique et la dimension littéraire ou historique, le besoin de réagir contre ce que j'appellerais surtout un conformisme de l'époque et un conformisme qui change selon les temps, mais qui reste très proche de nous et contre lequel il me semble qu'une des raisons d'être de la création littéraire est de combattre.
Vous voulez bien que je lise un passage du livre ?
Ah, mais j'en serais ravi.
Donc, celui consacré à un cinéaste japonais, dont on a passé la carrière avec une certaine drôlerie teintée d'acuité du regard, justement. Donc voici comment vous décrivez sa carrière. Takimori croyait dur comme fer à son talent et le public adorait cette insouciance si peu native. Né riche, précocement dissolu, passionné de course automobile, affilié dans sa jeunesse à plusieurs organisations nationalistes, bien introduit dans les milieux militaires, il avait débuté avec des documentaires de propagande sur la guerre du Pacifique, financés par l'état-major. Vers la fin du conflit, il réalisa son premier long-métrage, « La Sentinelle », l'histoire édifiante d'un petit garçon qui, d'un coup de fronde, atteint le pilote du bimoteur ennemi qui survole en rase-mode de son village et meurt avec lui dans l'embrasement de l'avion. Dans l'immédiate après-guerre, il s'était converti au néo-réalisme, signant plusieurs documentaires sur les bidonvilles et les trafics qui fleurissaient parmi les forces d'occupation. Ses adaptations de romans de séries noires, comme « Rififi chez les lutteurs de sumo », s'imposèrent à un nouveau public. On racontait qu'il était inscrit au Parti communiste sous un nom d'emprunt. Il est vrai que ces films, interdits aux États-Unis, étaient encensés en Union soviétique et en Chine populaire. Il devint ensuite un adepte de la nouvelle vague d'importation française, avec des récits intimistes sur la vie des employés et des retraités de Tokyo, sans pour cela dédaigner de somptueux péplums télévisés, censés raviver dans les masses la nostalgie des grandes heures de l'Empire. Mais la distribution américaine lui barrait la route d'un vrai succès commercial. Il arriva enfin dans les années 60 à tourner un cult pour Toshiro, qui connut un retentissement mondial et lança le filon du western Sushi. Le succès se répéta pour une comédie musicale qui tint pendant plusieurs saisons l'affiche à Broadway, une geisha pour deux shérifs, grâce au charme de son interprète, la délicieuse Annamite Lucie Chouchou, une de ses innombrables maîtresses. Je pense que le lecteur a compris que, malgré la mélancolie, Il y a beaucoup de pages où l'on sourit et où l'on rit, même si on croit voir également une description de certains, l'évolution de certains cinémas européens, bien entendu.
Oui, non, mais la raison pour laquelle n'est pas seulement... Enfin, on pourrait penser que c'est caricatural. C'est... Non, j'ai d'abord, c'est une petite parodie de quelque chose que j'aime bien, c'est-à-dire les parcours en dents de scie. Tous les personnages dont je me suis toujours occupé, s'il y a une continuité dans mon... très modeste travail, sont des personnages qui ont eu des itinéraires complexes. Et j'aime ce genre d'itinéraire, je trouve que c'est très vivant, je trouve que c'est humain, je trouve que ce n'est pas monotone, et j'ai voulu tout simplement reproduire, peut-être pour casser également l'atmosphère un peu mélancolique, je reprends le terme des pages qui précèdent, y introduire voilà, ce personnage un peu hors du commun.
La plupart des personnages sont hors du commun.
Oui, bien sûr. Mais enfin, disons que celui-ci est un condensé.
Il est condensé sur une page, oui.
Voilà.
Mais on pourrait prendre le livre d'ailleurs comme une sorte d'éventail de la nature humaine et de la façon de rendre la vie plus drôle, plus fantasque, peut-être plus intense.
Oui, et c'est la raison pour laquelle certains amis qui avaient lu le texte, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais m'ont dit chacun des trois récits, bien qu'ensemble ils composent ce triptyque, aurait pu être un roman en soi, aurait pu être plus développé. Il y a peut-être le reproche d'avoir trop condensé certains passages d'une séquence à l'autre. Mais j'ai voulu donner... C'est venu sans grand niveau de réflexion, ces rapprochements assez courts, assez rapides, assez serrés. Je tiens cette mesure pour quelque chose qui me correspond. D'ailleurs, j'ai éliminé de cette trilogie un quatrième texte, simplement parce qu'il est un peu moins diplomatique que les trois autres, et qui pourrait devenir l'essor d'un nouveau trio. On verra.
Non, mais vous avez raison, le livre est construit comme une succession de focales courtes, un peu à la façon pointilliste, et le sens général se dégage petit à petit. Mais du coup, on rentre davantage dans l'intimité des personnages. Or, c'est malgré tout, même s'ils sont en but aux difficultés provoquées par l'histoire, leur vie intime et leur cheminement intérieur qui compte. L'autre aspect qui est frappant, c'est l'importance des lignées. C'est-à-dire que vous replacez systématiquement, ce qui ne se fait plus toujours aujourd'hui, des personnages dans une histoire familiale, régionale. Ce sont des personnages en exil, mais qui ont des racines.
Eh bien, l'exil, il n'y aurait pas d'exil, peut-être, sans des racines ou des origines de cet exil. Donc, pour que le personnage soit perdu dans la mer de l'existence, j'avais besoin quand même, peut-être c'est une exigence de type historique, je ne sais pas, de le replacer dans le contexte d'où il sortait. Et voilà, ce qui fait que le côté familial, national, est assez précis.
Et social aussi.
Oui, si l'on veut, oui.
Oui, l'appartenance sociale a une certaine importance dans le livre. Je ne vais pas en faire une lecture marxiste, ils sont situés socialement.
Oui, peut-être, tout simplement pour leur donner, pour faire comprendre également certains préjugés. Je pense à mon personnage japonais qui est lui pris entre deux mondes, selon une hiérarchie très forte dans son milieu. Alors voilà, ça permet de comprendre comment ils agissent et comment ils sentent venir certaines situations.
Dans les pages consacrées à la Grande-Bretagne aussi.
Ah oui, non, mais ça, oui, tout simplement parce que, disons que dans un milieu excentrique de grandes sociétés anglaises, il fallait en même temps mettre les points sur les i en ce qui concerne certains snobismes ou certains tropismes du monde en question.
Alors évidemment, une question nous nous brûle les lèvres, elle est un petit peu indiscrète, mais les événements historiques que vous décrivez sont pour la plupart bien, bien réels ou reflètent ce réel. Dans cette galerie de portraits souvent hauts en couleur, parmi tous ces personnages, au-delà de ceux issus de l'histoire littéraire, les autres existent-ils ?
Pas en tant que tel, mais je pense que c'est un procédé que tout auteur utilise, qu'il soit grand ou petit comme moi, c'est-à-dire de faire en sorte, c'est assez naturel, qu'il y a trois ou quatre personnages, ou trois ou quatre moments, ou trois ou quatre facteurs, ça peut être de la physionomie, ça peut être de la psychologie, qui interviennent pour composer un certain personnage. Donc, je peux répondre très facilement qu'il n'y a aucun reflet d'être en existence, mais il y a certainement un monde qui se retrouve dans ces personnages.
Mais il est possible de trouver aujourd'hui encore des êtres d'une telle trempe. D'une telle trempe.
Je pense qu'on en trouve tous les jours. Au contraire, je suis moi-même impressionné par les rencontres que je fais assez constamment. C'est une période particulièrement riche de rencontres et de rencontres d'inconnus, très souvent d'inconnus, qui ont des parcours existentiels et des histoires tout à fait passionnantes. Que ce soit le voisin de table, votre bouchon de restaurant de midi, ou que ce soit... Je ne fais pas de rencontres sur les réseaux sociaux. Tout ça m'échappe complètement. J'ai déjà un mail à un portable et je souffre suffisamment de cela. Mais des visous en chair et en os, je trouve que l'humanité est formidable. Je trouve qu'on fait des rencontres fascinantes.
Maintenant, vous ne pourrez plus aller dans un seul lieu sans être assailli de gens qui ont espéré se retrouver dans vos romans.
Non, mais pas du tout. Mais parce que c'est pas qu'ils connaissent rien de mon œuvre, mais tout simplement, je vous dis, j'ai appris quelque chose de ma carrière diplomatique. Enfin, j'espère avoir appris un peu plus de quelque chose. Mais j'ai certainement appris quelque chose qui relie passionnément la diplomatie à la littérature. Et c'est la raison, je pense, pour laquelle il y a tant de diplomates littérateurs, ou en tout cas, il y en avait tant. Dans tous les pays, et surtout en France, où il y a une tradition énorme. Et c'est la curiosité. Si vous n'êtes pas curieux... il y a des auteurs pour lesquels rien ne vit en dehors de leur monde intérieur. Très souvent des poètes, Hölderlin, Léopard. Mais surtout quand vous faites du romanesque ou de l'essai ou de la biographie, c'est tellement important de la curiosité vers l'autre, vers, je ne sais pas, d'avoir vu le mobilier, par exemple, de certains auteurs dont je me suis occupé, m'a fait comprendre une plage de leur sensibilité que les seuls livres n'auraient pas suffi à me donner.
Vous voulez dire que le diplomate a, par nécessité professionnelle, le devoir de se mettre à la place des autres?
Oui,
pour mieux les comprendre, pour lire dans leur
c'est
jeu.
Peut-être, c'est peut-être beaucoup, mais il doit certainement essayer de comprendre l'interlocuteur. Mais je pense que nous faisons tous de la diplomatie, toutes et tous de la diplomatie, dans la mesure où je ne vois pas dans le milieu des affaires, plutôt que dans le milieu du droit ou dans le milieu de la magistrature, que vous ne puissiez pas vous mettre de la police du côté de votre interlocuteur.
Alors de ce point de vue-là, d'ailleurs, beaucoup des personnages de votre livre. Un des synonymes de diplomatique, c'est adroit, habile. On ne peut pas dire qu'en matière amoureuse, vos personnages soient finalement très habiles, au contraire. Avec acharnement à leur père.
Oui, tout à fait. Oui, ce sont des malhabiles, peut-être.
C'est ce qui les rend touchants, non ?
Oui, enfin, disons qu'il y a une difficulté à faire correspondre ce qui vaut dans la profession et ce qui vaut dans la vie courante, ou en tout cas dans la vie des sentiments.
Vous nous disiez qu'il y avait une quatrième partie, c'est pas un crève-cœur d'enlever une partie
Non, il y avait un quatrième récit, ce trio était un quatuor à l'origine. Il y a deux raisons qui ont fait en sorte que nous ayons opté pour cette solution. La première est que le quatrième récit, auquel je tiens, et qui a la même à la même clé d'interprétation et qui a également des passerelles, mais est légèrement moins diplomatique que les trois autres. Et en même temps, il y a une raison d'ordre pratique, c'est que cela aurait fait un livre de plus de 400 pages, et finalement, cette dimension est considérée la bonne, est considérée comme étant la bonne pour un premier roman.
Alors vous savez, la curiosité n'est piquée que parce que comme on s'attache au personnage des trois premières, du coup, on a envie de rencontrer ceux de la quatrième. Donc j'espère que vous en ferez
je peux simplement vous anticiper que leur destin n'est guère meilleur.
Nous en étions un petit peu doutés. même si, faut-il le préciser, des vies ratées, mais aussi riches... ont des attraits que n'ont pas des vies réussies, plus calmes et qu'on dirait plus abouties. Du reste, c'est suggéré. Les personnages tentent par moments de retrouver le bonheur, mais généralement, ou la sérénité, peut-être un autre nom du bonheur plus calme, mais ils ne s'y font pas.
Non, c'est leur destin et l'auteur n'y peut rien. Il est là et il suit. Vous savez, l'idée selon laquelle un auteur façonne ses personnages et l'autre école qui fait que l'auteur suit le trajet que ses personnages font pour lui, à mon modeste niveau, je me situe volontiers dans le deuxième cas. C'est-à-dire, aucun des trois récits n'a été écrit sur la base d'un plan où je savais que du début à la fin, cela se passerait de cette façon ou d'une autre. Je le savais grosso modo.
Pourtant, pour une construction aussi complexe, on s'imagine au contraire une sorte d'organisme.
Non, j'avais grosso modo. De ce point de vue-là, ça a été... Et même les croisements que nous n'allons pas définir, parce que nous ne voulons pas priver la lectrice ou le lecteur de l'exceptionnel bonheur de lire mon livre.
Il faut cheminer dans l'histoire.
Mais ce que je veux dire, c'est que même les croisements se sont faits assez naturellement en cours de route. Disons que, si vous voulez prendre la métaphore de l'automobiliste qui part équipé pour un trajet et qui suit un certain itinéraire et qui voit des embranchements et des possibilités d'aller à droite, à gauche et qui hésite et qui prend et puis qui revient et tout cela, mais qui suit et puis finalement arrive ou n'arrive pas là où il voulait. Voilà, c'est un peu ce qui s'est fait.
Eh bien, c'est exactement ça. On a presque envie de recommander ce livre à... je ne sais pas, de jeunes adultes, pour leur dire, écoute, voilà, la vie, c'est comme une énorme carte routière, tu prends à gauche, tu prends à droite, des chemins plus ou moins escarpés, dangereux ou pleins de quiétude, en fonction de tes désirs et de ce à quoi tu aspires. Les personnages ici ont quand même une forte tendance à vouloir se brûler ou brûler intérieurement, en tout cas. C'est le sentiment que l'on a, mais ça pourrait être un livre de moraliste, une sorte de guide à l'usage des nouvelles générations sur les différentes possibilités offertes par la vie, parce qu'effectivement, on peut aller de gauche ou de droite, et notamment en matière sentimentale. Une forme d'éducation sentimentale.
Oui, enfin, c'est très ambitieux, mais disons que ce n'est pas peut-être un guide à l'usage d'eux, mais ce sont quelques conseils de route bison futé. Vous voyez, suivez un peu ce qu'on vous conseille. Non, il y a par exemple, si je peux, sans entrer dans le mérite, vous me permettez d'évoquer une situation précise où là, j'étais un peu pantois du point de vue de la trame. C'est le seul cas de difficulté que j'ai eu. La nouvelle, disons, japonaise, qui est la nouvelle centrale, le récit central, a un parcours très homogène dans les chapitres concernant Rome ou l'Italie. Donc il y a la rencontre, nous pouvons le dire, c'est la quatrième de couverture d'un attaché culturel japonais avec une femme de la société culturelle romaine qui est l'épouse du grand poète. Cela se passe en 40, continue pendant la guerre. Puis après, enfin à la fin de la guerre, dans la situation de la République sociale en 43-45. C'était assez homogène, c'était assez fait. Je ne savais pas ce qui se passerait après. Et là, j'ai réfléchi et puis un séjour au Japon m'a fait penser qu'il pouvait y avoir une suite japonaise. et puis un final américain. Voilà, je ne dis rien d'autre. Donc tout simplement pour dire comment l'itinéraire s'est fait.
Il ne faut effectivement rien dire d'autre. C'est un très très beau chapitre et la mise en regard de la situation japonaise et de la situation américaine crée un contraste absolument
Merci.
Vertigineux
Merci.
Que le lecteur doit découvrir.
Je vous suis très reconnaissant.
Mais écoutez, je pense que nous pouvons recommander au lecteur de le découvrir désormais par lui-même, parce que sinon nous allons tellement l'effeuiller que nous en aurons trop dit. Et il ne faut pas trop parler des romans, parce que...
Pas du tout, pas du tout.
Comment dit-on aujourd'hui ? Divulgaché, c'est ça ? Ça ne se dit pas à l'Académie, pas encore. Donc, les références de l'ouvrage « Amour diplomatique » par Maurizio Serra chez Grasset. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous en parler.
Merci infiniment de votre accueil, toujours aussi aimable et aussi stimulant pour l'auteur que je suis. Merci.
Merci beaucoup. Thank you.